C'était Malajube et Ursuline de l'album Labyrinthe, le troisième album du groupe de rock indépendant québécois sorti en 2009. Et c'est avec bonheur que nous allons parler du monastère des Ursulines et de son pôle culturel. Enfin, nous serons dans un tout autre univers. Le musée du pôle culturel du monastère des Ursulines est un musée d'histoire mettant en valeur le legs culturel des Ursulines de Québec, situé sur la rue Donnacona, sur le site de l'ancienne maison de Marie-Madeleine de Chauvigny de la Pelletrie. Et pour en parler, on joint Johan Bonnette, médiateur culturel au pôle culturel du monastère des Ursulines. Bonjour.
Bonjour, vous allez bien?
Ah, très bien. Et puis bon, il fait beau, alors c'est merveilleux. Monsieur Bonnette, oui, le musée du pôle culturel du monastère des Ursulines, qui était autrefois connu sous le nom de Musée des Ursulines de Québec, tout simplement.
Oui, exactement. Tout à fait. Donc, il y a eu un petit changement par rapport à l'institution, justement, en 2018. Mm-hmm. Tu sais, c'était vraiment aussi un changement de cap également. Puis ça a vraiment... le pôle culturel, en fait, c'est plus qu'un musée. C'est aussi avec une mission de conservation des archives et des collections des Ursulines. Donc, c'est aussi derrière le changement d'appellation.
Donc, c'est beaucoup plus global, au fond, c'est ce que je comprends.
Oui, c'est ça. Je dirais le musée, c'est peut-être la partie qui est la plus visible pour ce qui est du grand mm-hmm. public, les gens qui viennent nous visiter. Mais il y a tout un travail, justement, en coulisses pour, justement, s'assurer le maintien de ces collections-là qui sont vraiment inestimables au niveau patrimonial.
Tout à fait. Alors, c'est vraiment un lieu où chacun peut enrichir ses connaissances à travers, effectivement, les expositions, les visites, participer à de nombreuses activités autour de cet héritage unique des Ursulines. Il y a tout un volet culturel, une programmation culturelle, aussi à l'occasion du 350e anniversaire du décès de Marie de l'Incarnation. Alors ça se déroule tout au long de l'année. Hein. C'est un anniversaire qu'on célèbre jusqu'en 2023.
Oui, c'est ça, exactement. On a vraiment développé une année thématique là, du 30 avril 2022 au 30 avril 2023. Il y a vraiment plusieurs choses pour aller chercher des publics très différents. On a une nouvelle exposition, on a fait des concerts, des conférences, puis l'idée, c'est vraiment donc d'offrir des choses là, pendant une année complète là, pour nos visiteurs.
C'est ça, parce que vraiment, pour faire connaître ce personnage féminin marquant de notre histoire, et puis rappelons, bon, Marie de l'Incarnation, c'est pas tout le monde, là, évidemment, les plus jeunes, peut-être, le savent moins, mais enfin, bon, d'abord, c'était une missionnaire catholique française, fondatrice des Ursulines de la Nouvelle-France, et puis elle a aussi fondé, je pense, le premier couvent d'enseignement féminin en Amérique.
Oui, c'est ça. En fait, on parle vraiment là, de la première école pour filles au nord du Mexique. Les Ursulines enseignent à Québec depuis 1639. Donc, on parle de plus de 380 ans d'éducation. Ouais. Puis, ce qui est hallucinant avec Marie de l'Incarnation, c'est quand on regarde non seulement comment elle enseignait, mais tout ce qu'elle allait accomplir en plus de ça. Marie de l'Incarnation, c'était aussi une femme d'affaires redoutable. C'est quelqu'un qui a participé, par exemple, à la conception du premier monastère des Ursulines. Elle a aidé à dessiner les plans, elle a aidé à recruter les personnes nécessaires pour le construire. Donc, c'est vraiment un personnage qui est très multidisciplinaire, puis c'est vraiment quelque chose qu'on veut mettre de l'avant avec cette programmation-là aussi.
Oui, c'est ça, parce que, bon, je parlais que le site du monastère, en fait, c'est situé là, en fait, dans l'ancienne maison de Marie-Madeleine de Chauvigny de la Pelletrie, qui est en fait une femme qu'elle avait rencontrée, bon, et qui était riche, qui était pieuse. Alors, cette rencontre-là a été déterminante parce que c'est par elle qu'elle va obtenir, Marie de l'Incarnation, les fonds nécessaires pour la fondation de son monastère à Québec.
Absolument. Puis Madame de la Pelletrie est un personnage vraiment incontournable. En fait, c'est vraiment elle qui va soutenir Marie de l'Incarnation. En fait, elles avaient un objectif qui se rapprochait vraiment, qui était assez commun. Donc, c'est vraiment une rencontre qui était très très profitable pour ces deux femmes. Ce qui est intéressant aussi à relever avec Madame de la Pelletrie, c'est que il y a beaucoup de gens qui allaient prendre ce rôle-là de mécène. Mm-hmm. Mais c'est pas tout le monde qui allait traverser l'océan.
Oui, parce qu'elle l'a fait avec Marie de l'Incarnation. Ouais.
C'est ça, donc c'est vraiment intéressant aussi comme angle pour montrer vraiment la passion derrière ce projet-là de Madame de la Pelletrie.
C'est ça, deux femmes volontaires. Alors, Marie de l'Incarnation, qui évidemment devait convertir au catholicisme les filles qui lui étaient confiées. Alors, d'abord les Montagnaises, les Abénakis, puis les Hurones et les Iroquoises. Enfin, on va passer au musée comme tel et à tout ce qu'on doit savoir, là, tout ce qu'on peut faire autour de ce pôle culturel des Ursulines.
Oui, bien sûr. Donc, on a vraiment, pour ce qui est du musée, on a présentement 5 expositions à l'affiche, vraiment très variées. Il y en a sur l'éducation, il y en a qui présentent plus en détail les broderies des Ursulines comme artistes. C'est vraiment hallucinant. On a des œuvres qui sont exposées, qui remontent aux années 1600, aux années 1700. D'ailleurs, notre nouveauté estivale est en lien avec ce patrimoine textile. En fait, on a fait une collaboration avec la Maison des métiers d'art de Québec. Et en fait, c'est un projet qui s'appelle Filiation. Donc, il y a 6 artistes textiles du et de Québec qui ont créé des œuvres contemporaines inspirées des collections textiles des Ursulines. Donc, c'est vraiment un dialogue entre le présent et le passé. Et ce qui est intéressant, c'est que ces œuvres-là sont exposées partout dans les salles du musée. C'est ce qu'on appelle une exposition éclatée, finalement.
Oui, oui, oui.
Et les œuvres où elles sont exposées, c'est en lien avec les thématiques des salles d'exposition. C'est vraiment très, très, très complémentaire. C'est vraiment un excellent projet. Les artistes ont fait des œuvres hallucinantes. Et cette exposition-là est à l'affiche en nos murs jusqu'au 1er décembre.
Bon, parfait. Il y a tout un volet familial également, hein, pour tout le monde, quoi.
Absolument. On a une exposition qui s'intitule « C'est en jouant que l'on devient grand ». C'est une exposition ludique, donc qui se joue. C'est vraiment génial pour les familles au niveau des artefacts, tout ça. C'est vraiment adapté. Par exemple, il y a des endroits où il faut ramper si on veut voir les objets. Donc, c'est vraiment amené pour les familles. ce tournant familial-là se reflète également dans nos salles d'exposition. En fait, nous, ce qu'on aime dire, c'est qu'on a des activités pour les familles dans toutes les salles de notre musée, que ce soit des rallyes, que ce soit des chercher-trop, même que d'ailleurs, au mois d'août, on va avoir un parcours archéologique où c'est vraiment un jeu d'observation avec les familles qui les amènent dans les jardins des Ursulines, dans la cour intérieure. Donc ça, c'est vraiment extrêmement intéressant.
Ah bon, alors évidemment, c'est ce monastère qui est vraiment bien imbriqué finalement dans le quartier.
Oui, absolument, absolument. Je vous dirais même au point tel que c'est le sujet de notre visite extérieure. En fait, on a un parcours qui s'intitule « Les Ursulines et leur quartier » et on met en lumière ces liens-là qu'a la communauté avec les rues, les intervenants, les maisons, les bâtiments qui les entourent. C'est vraiment intéressant d'aborder l'histoire des Ursulines sous un angle peut-être plus extérieur auquel on est habitué. C'est vraiment une belle manière de découvrir le quartier également.
C'est ça. Puis il y a la chapelle hein, qui est à découvrir aussi. Hein. On peut compléter notre visite aussi de ce côté.
Absolument. La chapelle, en plus, c'est gratuit. Donc, s'il y a des gens qui passent par le Vieux-Québec qui n'ont pas le temps de faire tout le musée, nous, on le recommande fortement. C'est vraiment vu comme un trésor.
Ah oui, un joyau d'histoire.
Au niveau du patrimoine, c'est hallucinant. On a un des décors religieux au niveau des retables, au niveau de la chaire, qui sont les mieux conservés datant de la Nouvelle-France. Il y a le tombeau de Marie de l'Incarnation, justement.
Mm-hmm.
On a également beaucoup de tableaux qui sont attribués à la collection des Fonds des Jardins. Donc, c'est des tableaux qui ont été rescapés de la Révolution française, qui datent du 17e et du 18e. Donc, on est vraiment dans un lieu extraordinaire là au niveau patrimonial.
Mm-hmm. Il y a aussi différentes facettes du legs des Ursulines qui sont dévoilées par des expériences virtuelles. Alors ça, c'est important pour ceux qui voudraient aller juste explorer sur votre site.
Oui, absolument. Je vous dirais, au niveau de l'expérience virtuelle, ce qui est intéressant, c'est qu'on a lancé un balado âme-sœur qui présente les liens entre les Ursulines et une autre communauté bien connue de Québec, une communauté fondatrice, les Augustines. Au niveau virtuel, c'est extrêmement intéressant. Il y a un volet audio, mais il y a également un volet vidéo. Donc, ça permet aussi de découvrir des lieux qui ne sont pas accessibles au public avec des intervenants qui vous racontent cette belle histoire-là sur place. Donc, ça, au niveau virtuel, c'est vraiment extraordinaire. Ça a été lancé il y a quelques semaines. Puis c'est vraiment un très beau document, là.
C'est ça. Donc, pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, enfin, c'est extraordinaire. Donc, c'est riche en histoire et tout. Alors, volet éducatif, bien sûr, volet familial. On peut jouer aussi, en fait, pour les familles. Là, on peut devenir archéologue en herbe également pour les jeunes.
Exactement. Puis, enfin. Sinon, une activité que je me sentirais mal d'oublier de vous parler en cette belle occasion. On a un projet très spécial qui s'appelle Écho du cœur, qui est une expérience audio-immersive dans la chapelle des Ursulines. Moi, ce qui vient beaucoup me chercher avec ce projet-là, c'est que c'est les Ursulines qui se confient. C'est les religieuses qui vont vous raconter leur chapelle en leurs propres mots.
C'est très intéressant,
c'est
ça.
Très touchant, très émouvant, puis c'est vraiment une manière extraordinaire de découvrir la chapelle. Ça, c'est ça, c'est de manière audio-immersive. Donc, vous avez un casque d'écoute, puis le son va changer selon... C'est vraiment comme si quelqu'un vous parlait. C'est vraiment très, très spécial.
Ah bon, écoutez, rapidement, le musée, bon, il existe quand même depuis 1936, et puis, collection très riche, il y avait le célèbre crâne de Montcalm, existe-t-il encore? Simple curiosité, vite, vite.
Oui, le crâne de Montcalm existe encore, mais en fait, Montcalm a été enterré pendant longtemps à la chapelle des Ursulines.
Ah, oui.
C'est ça qu'on avait le crâne, là, pour mettre dans le contexte. Sauf que Mokane n'est plus enterré là. En fait, il a été déplacé en 2001, donc assez récemment, du côté du cimetière de l'Hôpital Général de Québec pour qu'il soit enterré avec ses soldats. Et à cette occasion-là, on a réenterré le crâne avec le reste de sa personne.
Parfait, Johan Bonnette, médiateur culturel au pôle culturel du monastère des Ursulines. Merci et puis bon été.
Merci à vous. Bon été à vous.
Au revoir. Et bon été à tout le monde. Nous, on sera là quand même demain à la même heure, entre midi et 13h. Soyez là. Au revoir.